Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Celui dont il est question aujourd'hui a rendu une humilité inattendue à nos grands monuments en les enveloppant de tissus ou de papier. Il a protesté contre le mur de Berlin en entassant des barils de pétrole usagés. Il a voilé des vallées entières ou encore ceinturé de roses les îles Biscayne. Sans oublier l'empaquetage du pont Neuf, du Reichstag ou encore de l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, c'est Christo qui nous emballe et ça commence tout de suite.
Il a brûlé les ponts. Les souvenirs, parfois, ça fait souffrir. Les souvenirs, l'impossibilité de cette légèreté.
Toute ma vie, je me sens réfugié, sans nation, émigré pour toujours. Je n'ai jamais appris à parler bien anglais non plus ou français. Je communique très mal. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup vivre à New York. C'est peut-être la plus grande ville qu'on accepte de parler n'importe quelle langue.
Christo, d'Est en Ouest. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Nathalie Salle.
Il disait qu'il est bulgare, il ne le niait pas, mais il n'était pas tellement intéressé de parler de la Bulgarie. Souvent, il disait quand j'ai quitté le bloc communiste, parce que c'était les deux mondes. En plus, il disait, je suis un homme déplacé. Il voulait toujours garder son passeport d'apatrite. Il ne voulait pas appartenir à un état, à une idéologie, à quoi que ce soit.
Alors Christo, c'est quelqu'un qui s'exprimait avec, dans sa tête certainement, plusieurs langues qui se mélangeaient, le bulgare, le français, l'anglais, passant un peu d'une langue à l'autre. Et se permettant comme ça aussi une très grande liberté d'expression en utilisant des mots qu'il inventait parfois. Il était effectivement très habité par son art, très, très radical sur la manière dont il devait exercer son art avec la plus grande liberté possible.
C'était quelqu'un qui voulait aller en avant, se libérer de tout ce passé-là et en même temps d'être indépendant dans ce autre système, disons, avec une autre idéologie capitaliste qu'il a utilisée à merveille pour réaliser ses rêves.
Rapport. Objet. Christo Yavatchev, artiste résident aux États-Unis. 2. Agent Elena. A. Stoyan Tenev, capitaine de la DS, police politique bulgare. 4 juillet 1984.
J'ai rencontré Christo Yavatchev à deux reprises. La première fois au restaurant, la seconde chez lui dans son atelier. Au restaurant, j'ai été accueillie par un homme gentil, bienveillant, modeste et peut-être même timide. Il est très attentif, disponible et à l'écoute. Christo a pas mal oublié notre langue, mais son application à parler le bulgare est presque touchante. Il cherche désespérément le bon mot, mais s'énerve lorsque quelqu'un tente de l'aider. Il s'habille très simplement, je dirais même comme un ouvrier. Plus généralement, il a quelque chose de vraiment prolétaire dans son allure.
Vladimir Yavatchev.
C'était mon oncle. J'ai travaillé avec lui pendant 30 ans et j'ai donc eu beaucoup de casquettes. J'ai commencé comme assistant pour le photographe Wolfgang Voltz, qui a pris la plupart des photos que vous voyez dans les livres de Christo. Je portais son matériel et je chargeais et changeais ses pellicules. Ensuite, j'ai fait tout un tas de choses, mais après la mort de Jean-Claude, j'ai monté les trois derniers projets, le Floating Piers, le London Mastaba au lac Serpentine à Londres et l'Arc de Triomphe à Paris.
Et que pensez-vous de l'histoire d'Elena, l'espionne des services secrets bulgares? Vous connaissez cette histoire?
Oui, je la connais bien.
Elle était une agente des services secrets de la Bulgarie.
J'ai lu le rapport. Il est très bien écrit et il témoigne d'une grande admiration, d'une sorte d'adoration même pour Christo. Je crois savoir qui est l'auteur, qui était l'auteur plutôt. Je ne vais pas vous le dire, mais j'ai des soupçons. Je ne sais pas ce que je peux dire là-dessus. Vous savez, c'était très fréquent à l'époque. La plupart des gens que je connais étaient agents. Ils le faisaient sans doute parce que ça aidait leur carrière pendant la période communiste. Ça leur rendait la vie plus facile. Les services approchaient les gens pour leur demander de partager les informations qu'ils pouvaient obtenir lors de conversations. Et si vous ne le faisiez pas, votre carrière n'avançait pas. Si vous aidiez le gouvernement, il vous faisait grimper.
Et pourquoi Christo ?
Oh, mais ils approchaient tout le monde, et en particulier les gens du monde des arts.
La visite de son atelier a été la grande expérience de la journée. Le lieu est simple, on y respire l'air de l'ancienne usine. Avec une sorte de conviction fanatique, Christo s'est mis à nous exposer ses idées sur l'art. D'un coup, il est devenu un autre homme. Fort, autoritaire, d'une certaine façon péremptoire. Mon récit est plus émotionnel qu'objectif. Je ne vous cache pas qu'il s'agissait pour moi d'une rencontre très spéciale, sentimentale même, parce que j'avais beaucoup entendu parler de lui par son frère en Bulgarie.
La frontière de nos rêves, de Georgi Balabanov.
C'est quoi ?
Christo et son frère Anani.
C'est un musée de l'art, de l'histoire et tout ça.
Ici, vous avez peut-être l'unique moment devant une caméra quand Christo parle en bulgare. C'était même pas prévu qu'il parle en bulgare, parce que normalement, c'était en français, avec son frère. Et les souvenirs l'ont fait parler la langue bulgare. Il est, quand vous le regardez, il est sans ce visage qu'il a officiellement, qui est le visage de quelqu'un qui maîtrise son comportement. Vous le voyez, il est presque comme ça, sans protection. Il est devant tout ce qu'il a caché, tout ce qu'il a pas voulu. Et en même temps, il a intérêt de tout cela. Ça le touche, ça se voit.
Quelle est cette maison-là ?
Ça, c'est non, non, je ne connais pas.
C'est une maison à Gavre.
Très bien. Le ville, tu te souviens, le ville ? Oui. Autour de la
rivière.
Oui.
Quel était le nom de la rivière ?
Yantre. Yantre et la fabrique de la rivière qui s'appelle Sinkevica.
Mais si je me souviens, je jouais avec Tom Sawyer, il y avait une gore de Dim Ben.
Et en plus, c'est bizarre, normalement l'enfance, toujours, les enfants, ils aiment toujours l'eau, une rivière, la mer. Et il a oublié le nom de la rivière. Il dit. C'était comment le nom de la rivière, dis-moi. Un peu de ce que j'ai tué. Et après, quand l'autre continue, mais tu te souviens, il y avait une autre rivière, il y avait une grotte où on jouait à Tom Sawyer et il essaye de revenir et ça ne vient pas. C'est vraiment un moment de tendresse, mais en même temps très cruel, du film. Je l'aime beaucoup.
Vous avez tourné sans quelle année ?
Je suis allé filmer à New York, c'était 94 ou 95. C'était avant les discussions de Bundestag pour le Reichstag.
Christo est né en 1935, juste avant la guerre. Son père était un industriel. Il avait une usine dans une ville qui s'appelait Gabrovo. C'était une usine de teinture pour textile. Ce n'était pas de l'industrie lourde, c'était une petite usine. Mon père, le frère de Christo, et Stéphane, leur petit frère, ont eu une enfance très heureuse à Gabrovo. Et Christo a été très inspiré par un lieu qui s'appelle Kachulit, un village à la périphérie qui n'est toujours pas raccordé au réseau électrique. C'est un endroit très isolé et ils passaient leurs étés là. Et Christo a beaucoup dessiné là-bas. Il y a passé beaucoup de temps.
Gabrovo est une ville très très jolie. C'est centre de la ville, comme c'était des gens qui avaient assez d'argent. C'est, vous savez, le sentiment quand vous êtes dans une petite ville quelque part en Allemagne, ou plutôt Autriche, disons, très bourgeois, comme ça, avec une rivière qui passe au milieu. C'est le nom de la rivière à laquelle Christo a oublié. Et Gabrovo, c'est le centre-centre de la Bulgarie et au centre des Balkans. Le père a eu cette idée de faire une petite entreprise. Avec la nationalisation, il était traité déjà comme un capitaliste ennemi, évidemment, du nouveau système au pouvoir communiste, etc. Et après, comme il a commencé de travailler comme ingénieur dans une autre grande usine de textile, il lui cherchait de comment le punir plus.
Ils ont dû déménager dans une autre ville, parce que pendant la période communiste, pour éviter que les gens aient trop d'influence dans leur ville, on les faisait souvent déménager. On les a donc déplacés à Plovdiv. Il y a eu un accident à l'usine où le père de Christo travaillait. Ils l'ont désigné coupable et ils l'ont accusé d'être un saboteur capitaliste. Il a passé de nombreuses années en prison.
Parce qu'il avait un comportement assez libre, cet homme.
Le père de Christo.
Le père de Christo. La mère était liée et elle avait des idées plutôt de gauche. Ses amis étaient des anciens combattants de résistance, ça veut dire. C'était les deux pôles, un peu. D'après ce que je sais d'Anani, que le père disait à sa femme, « Regarde ce qu'ils ont fait du pays, tes camarades. » Résistante, l'ancien communiste. Elle a mis tout un réseau, 6 ou 7 mois. Ils l'ont vu une fois. À Gabrovo, il était arrêté dans le locaux de la police. C'était une milice, s'appelait locale, avec une petite fenêtre d'une sous-sol comme ça. Et la mère les a amenés deux avec Christo et Anani pour voir son père.
He had very strong memories from that time.
Christo se souvient bien de cette période. Il a décidé très jeune qu'il allait être un artiste. Ma grand-mère, donc la mère de Christo, travaillait à l'Académie des Beaux-Arts. Elle était assistante de l'un des professeurs, elle était secrétaire. Elle a encouragé Christo et elle lui a trouvé des professeurs pour apprendre à faire des maquettes, de la sculpture, du dessin, tous les domaines artistiques en fait. Il a donc commencé très tôt.
And he loved also theater. He made quite a few. He would write plays and books.
And he made some Muppets. Il a écrit plusieurs pièces et il fabriquait des marionnettes pour le théâtre.
And what was really interesting at that time also is when it came time to go to university, my father, who is 3 years
old, au moment d'aller à l'université. Mon père, qui avait 3 ans de plus que Christo, n'a pas pu aller à l'université parce qu'ils étaient considérés comme des ennemis de l'État. Bien sûr, on ne pouvait pas éduquer des ennemis de l'État. Donc mon père est devenu acteur à l'Académie de théâtre, parce que l'Académie de théâtre n'était pas considérée comme une université à l'époque. Mais quand Christo a eu l'âge d'entrer à l'université, Staline était déjà mort. Les choses avaient un peu évolué. Il a pu aller à l'université et donc à l'Académie des Beaux-Arts. Il a passé 2 semestres à disséquer des corps humains pour apprendre les muscles et l'anatomie. C'est pour cette raison que Christo était un excellent dessinateur d'un point de vue technique. Tout cela est lié à l'approche rigoureuse et très conservatrice de l'Académie des Beaux-Arts de Sofia.
Christos est un génie du dessin. Je pense que son grand problème artistique était qu'il était né trop tard. Il voulait être comme les grands maîtres de la peinture, tous ces Michel-Ange et Léonard, parce qu'il avait le même talent à dessiner. Je suis sûr, parce que j'ai regardé des choses, j'étais étonné de sa maîtrise de dessin à 16, 14 ans, à 12 ans, il faisait à 10 ans des portraits de sa mère, tu dis c'est un peintre complet qui a fait ça, comment? Et donc il ne voulait pas faire des dessins.
Matthias Codenberg.
Les étudiants devaient se conformer à la doctrine du réalisme socialiste. Et Christo n'avait pas accès à l'art occidental. Il était en conflit avec les enseignants de l'académie. Car on attendait des étudiants qu'ils dessinent et peignent des images d'un pays prospère. Ils devaient peindre les paysans pendant le travail au champ. Et Christo, par exemple, a fait une série de peintures et de dessins qui montraient des paysans complètement épuisés, qui prenaient la pause dans les champs en buvant de l'alcool. Ce n'était pas du tout ce que les enseignants voulaient voir, et il y a eu une grosse dispute. Christo s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir faire les œuvres qu'il avait en tête en Bulgarie, et qu'il allait devoir quitter le pays pour devenir un artiste libre de créer.
Il veut quitter ce monde, qui est à ce moment très bien surveillé, c'est une des plus durs moments du communisme en Bulgarie, avec les camps de concentration, avec la peur que tu peux disparaître du jour au lendemain. Et ça a duré jusqu'à l'année 60, il y a eu des camps d'extermination. Et à ce moment-là, Christo prépare déjà, dans sa tête, sa fuite. Comment il a fait ça? Il avait un prof de peinture, un grand professeur Mitov, qui leur demandait chaque année de faire des dessins sur un certain thème ou sujet. Donc pour un examen de fin d'année, il doit faire des portraits des femmes. Et donc Christo se dirige vers les épouses des ambassadeurs occidentaux. Cet acte déjà était dangereux parce que le voir comment il va aller dans les ambassades de la France ou de, je sais pas, l'Angleterre, etc., pour faire les portraits. Et là-bas, il m'a dit, j'ai eu la possibilité de regarder une autre monde. Ils m'ont montré des revues, des albums avec des peintres modernes. Donc c'est son premier contact avec l'Occident, se fait via les épouses. Et il se fait un contact très, très, important pour les futurs événements de sa vie, donc la fuite de la Bulgarie, ce monsieur Bonavita. Monsieur Bonavita est l'attaché culturel de la France à cette époque-là. Et monsieur Bonavita était un peintre, comme ça, amateur. Et il allait avec Christo faire des plein air à côté de Sofia. Et il a découvert Lucie, il a vu que c'est un génie du dessin. Ça, c'était clair, c'était un génie du dessin, Christo. Et monsieur Bonavita va l'aider après. Comment? Christo réussit, avec des contacts de sa mère communiste, à avoir un passeport pour aller à Prague.
Il est d'abord allé à Prague, où il avait de la famille. Et quand la révolution hongroise a commencé, il a décidé de ne pas retourner en Bulgarie.
Insurrection de Budapest, 1956.
Aujourd'hui, un deuil, le deuil d'une nation, écrase la conscience du monde. Le drame d'une Hongrie qui s'est forcée de se débarrasser de ses liens s'achève dans le sang de son peuple. Les chars russes l'ont réduite au silence.
Il a corrompu un employé de la compagnie des trains et il s'est enfui. D'abord, à Vienne.
Il écrit à son frère une lettre, c'est la dernière lettre avant de partir de l'autre côté en Autriche. Il lui dit, cher frère, je ne peux plus rester là-bas, je sais que tu vas me pardonner parce que pour toi, ça veut dire que ta vie ne sera pas après facile avec tout ce que nous avons comme l'histoire de famille avec notre père et maintenant ton frère qui est fugitif, comme on dit dans les enquêtes de la police, un non-retournant. Et le 10 janvier 57, il paye une douanière avec quelques autres tchèques, c'est un wagon de marchandises avec des médicaments. Donc comme médicament, il est passé la nuit de Prague à Vienne.
Quand il est arrivé à la gare de Vienne, il a même laissé sa valise dans le train. Il avait juste un crayon, ses papiers d'identité et des dessins d'études. Il ne voulait pas qu'on le traite comme un réfugié, qu'on le conduise dans un camp et être aspiré par tout le système. Il voulait que les gens pensent que c'était un type normal qui rentrait juste d'un petit voyage en train. Il n'avait pas d'argent. Il a grimpé dans un taxi. Il avait l'adresse d'un ami d'école de mon grand-père et il a donné l'adresse au taxi alors qu'il n'avait pas de quoi le payer. Il s'est dit, si je ne peux pas payer, je vais terminer à la police. Mais si je ne tente rien, je vais aussi finir au commissariat, donc autant essayer. Et ça a marché, la personne était chez elle et elle l'a accueilli. Ensuite, il s'est inscrit à l'Académie de Vienne juste pour bénéficier du statut d'étudiant et non de celui de réfugié.
Il est à Vienne, à l'école de Beaux-Arts. Il voit que c'est inutile d'y rester parce que c'est le même style classique du dessin et qu'il n'y a rien d'intéressant pour lui. Et donc, il va à Genève. Monsieur Bonavita, qui est en mission après la Bulgarie, il était à Genève. C'est lui qui organise les papiers pour qu'il aille à Genève. Et Monsieur Bonavita lui procure ce passeport d'apatride. Et il le met en contact avec des familles de la aristocratie, haute bourgeoisie parisienne. Pour lui, Paris était la capitale de l'art moderne, surtout avec le dernier grand mouvement structuré, c'était le surréalisme qui est quand même né à Paris. Donc il vient ici en 58.
On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis.
On ne le saura jamais.
L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris.
À Paris, ça a été très dur pour lui, car il n'avait pas un sou quand il est arrivé. Il n'avait rien, il avait tout abandonné. Il ne connaissait personne, il n'avait pas d'amis, aucun contact. Et bien sûr, il fallait qu'il gagne sa vie. Donc il a fait la plonge dans les restaurants, il a lavé des voitures. Mais son gagne-pain, c'était surtout les portraits classiques.
And he started to paint the portraits of their wives and families, and this is how he earned money. And this is.
Il a commencé à faire des portraits de famille. Ça lui a permis de faire beaucoup de rencontres, notamment des rencontres importantes dans la haute société, qui l'ont aidé à obtenir des visas.
And this is like the whole story how he made it.
Cela lui a permis de tenir et de rester à Paris. Mais il n'aimait pas ça. Plus tard, il a dit que ses portraits, c'était une forme de prostitution. Il détestait faire des portraits. Mais pour gagner de l'argent, il n'avait pas le choix.
Et Madame de Guibon, l'épouse du général de Guibon, une des généraux de Gaulle, voit le portrait d'Anémone, la femme de Giscard. Elle dit, mais qui a fait ce beau portrait? Elle dit, mais c'est un jeune réfugié bulgare. Elle dit, mais j'aimerais que tu me le présentes. Je veux qu'il me fasse un portrait. Donc, il se présente à la maison. Il fait le portrait. Entre-temps, comme il y a une fille qui est jolie, qui s'intéresse à ce génie. En plus, il a un charme inné, lui. C'est vraiment Mozart. Quand tu le vois, tu ne peux pas te laisser comme ça sans être séduit. Lui, c'est la légèreté. C'est quelque chose. Il porte pas seulement le génie, mais la grâce, oui. C'est la grâce.
Et c'est vrai qu'avec Jeanne-Claude, qui venait d'une famille...
Sophie Duplex.
Qui avait beaucoup d'influence. Son père était le général de Gibbon, qui était un personnage très important. Donc elle avait dans son entourage beaucoup de relations. D'une certaine manière, même si la famille de Jeanne-Claude n'a pas accepté Christo au début, à partir du moment où c'était acté qu'ils étaient ensemble, qu'ils s'aimaient, qu'ils allaient rester ensemble, la famille Jeanne-Claude a été très importante pour Christo et l'a beaucoup aidé aussi dans les tractations qu'ils ont menées, notamment pour le Pont Neuf.
Ils ont eu un enfant aussi.
Absolument, ils ont eu un enfant également. C'est vrai que Christo ne présente pas un visage très heureux, finalement, jusqu'à ce qu'il... jusqu'à ce qu'il rencontre Jeanne-Claude. Est-ce que je pourrais me permettre de dire ça?
Il a 23 ans, c'est ça?
On était très jeunes. Moi, vous savez, j'étais réfugié politique pendant la Hongarian Révolution en 1956. Je m'échappais de Prague, dans l'Est. Je ne parlais aucune langue, seulement bulgare et russe. J'ai grandi dans une période très difficile, au rideau de fer de l'autre côté. Et je me souviens, je n'avais pas le temps d'étudier le français. Et Jean-Claude disait toujours, Christo a appris français au lit avec moi. Oui, c'était la vérité.
D'abord, en tant qu'artiste, il ne s'est pas encore inventé, finalement, quand il arrive à Paris. Et tous ces portraits lui permettent de, parallèlement, faire son travail personnel, des œuvres très étonnantes, qu'il appelle des surfaces d'empaquetage, qui sont des papiers ou des tissus qui sont froissés mais tendus sur des châssis et avec une dimension un peu misérabiliste. Et puis aussi, parallèlement, ce qu'il appelle des cratères, des peintures très matiéristes.
In 58, when he arrived in Paris, of course he became...
Quand il est arrivé en 1958, il s'est intégré assez rapidement à la scène artistique. Là, il a commencé à trouver son style. Comme tous les artistes, Christo se rendait au musée et dans des galeries. Il copiait le travail d'autres artistes.
Il a vu des Pollock
et a commencé à faire des œuvres abstraites. Ensuite, il a vu des Dubuffet et s'est mis à faire des reliefs et des travaux avec beaucoup de matière.
Bon, on peut aller faire un tour dans la pièce d'à côté?
Oui. Ces débuts donc, qui ont été présentés dans l'exposition au Centre Pompidou, donc toute cette première partie de l'œuvre... Hein. À partir de la fin des années 50. Et ici, donc, on est devant ce très beau cratère que Christo dit avoir fait quand même en écho à l'œuvre de Dubuffet qu'il avait vue en Suisse et après qu'il revoit à la galerie Daniel Cordier. Et c'est quelque chose de vraiment très étonnant, très matiériste, avec des trous, effectivement, ça s'appelle cratère. Et dans d'autres œuvres du même type, on voit les pots de peinture en fait, qui lui ont servi à faire les trous de ces cratères, hein, qui sont fichés dans la matière, littéralement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des œuvres de Dubuffet qui sont très proches de cette œuvre-là, mais Dubuffet les a fait finalement quelques mois après. Donc c'est intéressant de voir que finalement, d'une certaine manière, Christo s'est inspiré de Dubuffet et après, on découvre que Dubuffet fait des choses qui sont très proches, mais il les a faites quelques mois plus tard.
And at some point, he started to wrap things.
À un moment, il a commencé à emballer des choses, notamment des pots de peinture. C'était facile car il peignait toute la journée et donc il avait de la toile et plein de pots de peinture vides par terre dans son studio. Il a emballé les pots, il les a peints, il a fait des sculptures en trois dimensions et à partir de là, il s'est rendu compte qu'emballer les objets les transformait. que cela leur conférait une autre image intéressante et qui offrait une lecture différente de l'objet. Ainsi, on peut créer des sculptures à bas coût et facilement, et c'est comme ça que tout a commencé.
Et je crois que les premières œuvres de Christo, qui sont ces empaquetages, mais où le tissu est solidifié avec de la laque, il y a un aspect misérabiliste qui est quand même un écho assez direct à ce que Christo vivait intérieurement en tant qu'émigré. Et il disait qu'il avait toujours peur qu'on le renvoie dans son pays. Ça, c'était quelque chose qu'il a beaucoup habité au début à Paris.
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les Soviétiques décident d'ériger un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Des maçons vont donc empiler les parpaings qui sépareront la capitale allemande pendant plus de 20 ans.
Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui en 10 ans lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 km de longueur, ces 40 kilomètres par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté.
Vous savez, le mur de Berlin était construit. J'étais un réfugié politique.
Christo.
Et je voudrais faire une réponse poétique à la mur de Berlin en faisant notre mur de l'art à la petite rue Visconti entre rue de Seine et rue Bonaparte.
Mais pourquoi des barils?
C'était un élément tout industriel, tout simple, qui était très pratique pour le prendre et très vif en couleur, couleur industrielle, et faire un œuvre d'art. Tous nos projets, ils ont lié où sont faits. Vous savez, nous, on voulait le faire en 1960 dans le Texas, qui était aussi lieu de pétrole. On le fait en Hollande, aussi lieu de pétrole. Et bien, finalement, le projet a trouvé son propre place.
Comme vous savez, Christo et Jean-Claude ont réalisé une œuvre très importante à Paris en 1962. Ils ont bloqué une petite rue, la rue Visconti, avec un mur de barils de pétrole, qui était une forme de dénonciation poétique de la construction du mur de Berlin en 1961.
And Leo Castelli was in Paris when this project happened.
Et Leo Castelli était à Paris au moment de cette manifestation. Castelli a été très impressionné par leur travail. C'était un galeriste très célèbre dans les années 60. Il avait une galerie à New York, mais il était aussi très actif à Paris. Il a encouragé Christo et Jean-Claude à venir à New York parce qu'il pensait qu'il se ferait facilement une place au sein de la scène artistique new-yorkaise. Il a estimé qu'ils avaient un bon potentiel et il a promis à Christo une exposition collective à New York.
So Christo et Jean-Claude en 1964 went for a few months to New York.
En 1964, Christo et Jean-Claude ont passé plusieurs mois à New York pour participer à cette exposition. Durant ce séjour, ils ont décidé de s'y installer pour de bon, ce qu'ils ont fait peu de temps après. Deux ans plus tard, Leo Castelli a organisé une exposition solo pour Christo. Cela lui a permis de mettre un pied dans la scène artistique new-yorkaise. 1966, tout à fait.
Christo et Jean-Claude sont donc venus à New York en 1964. Ils sont restés plusieurs mois au Chelsea Hotel, le fameux Chelsea Hotel. Ensuite, ils ont trouvé un endroit à louer à Soho. Ils ont loué les deux étages, un pour vivre et l'autre pour l'atelier. Et au début des années 70, ils ont pu acheter l'immeuble. Mais chez eux, il n'y avait pas plus de choses que quand ils sont arrivés à New York alors qu'ils n'avaient pas d'argent. Tout ce qu'ils avaient, c'était des choses trouvées dans la rue ou qu'on leur avait offertes. Et ça n'a jamais changé parce qu'ils s'en fichaient. Tout l'argent récolté par la vente des œuvres était réinvesti pour financer les projets.
Jean-Claude disait toujours qu'il n'avait pas émigré aux États-Unis, mais à Manhattan, parce que c'était un monde tellement différent, lié à la scène artistique.
Christo, at some point, said that like New York could be his only home because he was so.
Christo disait que New York était son seul foyer, car il n'avait pas de racines. Il était un immigré qui avait quitté son pays, et New York comptait tant de gens du monde entier comme lui, déracinés.
So he really felt home in that city, actually.
Mais là, on se trouve au Musée national d'art moderne, au niveau 5 du Musée national d'art moderne, dans une salle où se trouve ce magnifique storefront de Christo, Four Storefront Corner, qui est une œuvre du milieu des années 60 et qui avait été présentée à la galerie Leo Castelli, grande galerie américaine, en 1966. Alors, cette œuvre vraiment monumentale, elle occupait pratiquement toute la galerie. Et c'est très étonnant parce que il y avait quelque chose, effectivement, de l'ordre de la déambulation qui était empêchée. Et puis, comme il y a souvent chez Christo, cette manière d'occulter le regard. Ce storefront est constitué d'une espèce de structure qui est une réplique de vitrine de magasin, hein. Mais simplement, au lieu qu'on puisse voir des objets dans la vitrine, eh bien, il y a des tissus qui sont tendus de l'intérieur et qui occultent complètement ces vitrines. Malgré tout, il y a de la lumière qui sort, donc c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique d'une certaine façon. Mais aussi, sur le plan architectural, c'est quelque chose de très fort. C'est vraiment une construction très puissante. Et puis, c'est vraiment une projection dans l'espace urbain. Et ça préfigure les interventions de Christo ultérieurement en extérieur.
Un événement à Milan. L'exposition consacrée aux nouveaux réalistes italiens a ouvert ses portes hier soir. Et Michel Onfroy, ce groupe célèbre cette année son 10e anniversaire.
C'est en effet en avril 1960, à Milan, puis en octobre à Paris, que Pierre Restani, journaliste, artiste et critique d'art, après avoir publié son manifeste de Milan, crée ce groupe en compagnie de Tinguely, Yves Klein, Armand, Martial Reiss et plusieurs autres. Un peu plus tard, le sculpteur César et Niki de Saint-Phal se joignirent au mouvement. Pour leur 10e anniversaire, les nouveaux réalistes ont été accueillis par la municipalité de Milan, qui a mis à leur disposition non seulement le pavillon historique de la rotonde de Belsan, vieux de 3 siècles, mais aussi et surtout les rues et les places les plus connues et les plus populaires de Milan, telles la place du Dôme, la Galerie, la place de la Scala, où depuis 48 heures, la célèbre statue de Léonard de Vinci a été emballée, empaquetée par Christo. L'empaquetage et le ficelage étant l'expression artistique préférée de cet artiste d'origine bulgare. À l'origine, c'est la statue de Victor Emmanuel qui devait être recouverte et ficelée ainsi, mais le ministre de l'Intérieur italien est intervenu en personne pour annuler l'autorisation donnée par le maire, allant jusqu'à menacer d'arrestation toute personne qui porterait atteinte à la mémoire du père de la patrie. Aucune objection, en revanche, pour Léonard de Vinci, qui, étant un artiste et un intellectuel, par conséquent, ne verrait aujourd'hui aucun inconvénient à être empaqueté et ficelé.
Alors, il y a une idée qui est un peu à reprendre en considération, c'est celle de l'appartenance de Christo au nouveau réaliste. En fait, lorsque Pierre Restani fait signer à un certain nombre d'artistes son manifeste du nouveau réalisme en octobre 1960, Christo n'est pas présent, il est d'ailleurs un peu amer. En fait, Restani considère son travail, a écrit sur son travail, mais ne le considère finalement pas nécessairement comme étant dans cette mouvance. Ça va se faire petit à petit et en fait la première exposition nouveau réaliste à laquelle Christo participe, c'est en 1963, donc en fait c'est assez tardivement. Et lui-même a dit que il avait bien sûr des amitiés, des affinités avec un certain nombre d'artistes liés au nouveau réaliste, mais qu'il ne se considérait pas comme un artiste nouveau réaliste, même s'il a pu participer ponctuellement à quelques événements. Alors il y avait beaucoup cette idée de l'objet pris en tant que tel, et en fait le travail de Christo est d'une autre nature. Il y avait eu tout un débat sur l'idée de néo-dada, d'appropriation de l'objet, Et Christo n'était pas dans cette démarche de s'approprier des objets, ni de faire un commentaire sur la société industrielle en empaquetant des objets. Il n'était pas là pour parodier la société de consommation. Donc voilà, il ne voulait pas être tiré vers cette interprétation qui pouvait être celle que Restani mettait en avant par rapport à son travail. Donc Christo a vraiment beaucoup cherché à s'éloigner de ce rattachement qu'on peut faire de son travail à celui des nouveaux réalistes.
At the beginning he was like doing smaller objects, he was wrapping cans, as I already said.
Au début, il faisait donc de petits objets. Il emballait des pots et puis après des barils. C'est devenu de plus en plus gros. Et à un moment, Christo et Jean-Claude ont proposé d'emballer un immeuble, un bâtiment public. Là, ils entraient dans une dimension architecturale. Et bien sûr, c'était très compliqué car les gens pensaient que Christo et Jean-Claude étaient un peu fous. Quand ils sont allés à New York, ils ont négocié pour emballer deux gratte-ciels. Mais bien sûr, ils n'ont pas eu les autorisations. Ensuite, ils se sont dit que ce serait mieux d'emballer un musée, parce que les musées sont plus ouverts à ce type de proposition.
J'ai fait proposition d'un bâtiment public,
Christo.
Prison au Parlement. Bien sûr, la chance d'avoir un bâtiment public, prison au Parlement, c'était impossible. C'était beaucoup plus chance d'impacter un musée. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'impacter le musée Modern Art à New York. On n'a pas réussi d'avoir permission. Et tout d'un coup, c'est un jeune curateur suisse, Harald Simon, qui disait, voulez venir impacter mon musée, Kunsthalle in Bern, en Suisse. Et c'était le premier bâtiment public qui a été impacté en 1968.
C'était une grande prouesse d'emballer la Kunsthalle de Berne en 1968. Ils n'avaient jamais emballé quelque chose de si grand, et ça leur a permis de capter l'attention du monde artistique et des médias. Puis ils ont réalisé des projets toujours plus grands. Le premier projet dans la nature, c'était le projet Wrapped Coast, la côte emballée, qu'ils ont réalisé en 1969 en Australie. C'était une autre dimension avec beaucoup plus de tissu. Ce fut le point de départ de leur projet sur le paysage.
C'est l'impactage de la 100 000 mètres carrés de côte en Australie. En utilisant des 50 km d'Europe, des côtes spéciales, on a impacté des falaises, des rochers et des plages sur environ de 2,5 km. Voilà.
Je précise pour les gens qui prendront l'émission en cours que ces empaquetages que vous faites sur des monuments ou sur des lieux naturels ne sont pas destinés à rester éternellement.
Non, ce sont tous des œuvres temporaires.
Voilà.
C'est des œuvres temporaires environnementales, des œuvres très publiques parce qu'ils sont faits dans les lieux où les gens utilisent, ils marchent, ils vivent autour de ça. Et c'est un projet qui est d'un mouvement extraordinaire parce que vous savez, l'étoile est dans constant mouvement, ouais. Le vent prend les plis et on vient presque comme aspirer le paysage.
Je crois que chez Christo et Jean-Claude, parce que là je parle aussi de Jean-Claude parce que quand même dans ses projets monumentaux elle a été extrêmement présente aussi dans cette dimension-là, il y a une très très grande sensualité. Il y a ce côté sensuel dans le tissu, dans toute cette vibration du tissu, dans le choix de tissus qui peuvent changer de couleur selon la lumière. Il y a tout ça, le tissu, on a envie de le toucher aussi. Il y a une dimension tactile très très importante dans ses œuvres. Et c'est vrai que c'est une composante vraiment essentielle du travail de Christo Jean-Claude.
Pour comprendre mon travail, il faut voir qu'est-ce que c'est. Certains de mes projets, par exemple le projet du Pont Neuf ou le projet de côte impactée en Australie en 1969, une fois que l'étoile est posée sur l'objet fait de l'homme comme le Pont Neuf ou les rochers, l'étoile unifie cet espace et fait des formes sculpturales. Mais quand même, tous ces projets, ils ont une grande dimension, d'autres que seulement liées sur l'art et la sculpture. C'est une grande dimension architecturale et la planification urbaine. Ce sont des projets de territoire ou de frontières. Ce sont des projets qui sont tous installés dans un milieu manipulé par l'homme. dérangeant l'espace deviennent attirants et provocants. Ce sont des projets, moi je pense, qui ont une dimension poétique très intuitive et complètement irrationnelle.
Il a proposé des installations basées essentiellement sur l'empaquetage ou sur l'usage de tissus qui marquent le paysage, le territoire.
Nathalie Hennig.
Alors, évidemment, une installation de ce type-là est forcément temporaire et donc elles échappent à l'idée de patrimonialisation d'un objet que l'on peut conserver chez soi ou dans un musée. Mais en revanche, il y a toute une partie de l'œuvre qui est complémentaire et indispensable pour qu'existent ces installations. Ce sont en amont les esquisses préparatoires qui vont permettre de financer le projet puisqu'elles sont suffisamment chères sur le marché pour dégager de l'argent qui va permettre d'abonder l'entreprise Christo, hein, Jeanne-Claude et Christo, qui va être responsable de la mise en œuvre des installations. Et en aval, tous les produits dérivés de type reproduction, carte postale, etc., qui eux aussi produisent de l'argent. Et plus les installations ont de notoriété, plus elles produisent évidemment un enchérissement de ces propositions en amont et en aval, et donc elles vont permettre de financer les installations à venir. Et évidemment, toute la partie amont du dispositif est parfaitement patrimonialisable. Ce sont donc des œuvres graphiques de la main de Christo, signées Christo et non pas Jeanne-Claude, c'est très important, qui vont pouvoir être achetées par des particuliers ou dans des musées. Et là, on se retrouve dans une économie de l'art absolument classique. Mais je crois qu'il a dû être un des premiers artistes à créer de toutes pièces une entreprise privée, corporation, comme on dit en américain, avec tout un service technique, un service juridique, enfin tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre ses projets.
Et donc ce modèle économique, il est vraiment créé au moment de Valley Curtain, donc au début des années 70, avec Jeanne-Claude, qui s'appellera la CVJ Corporation. Et pour chaque nouveau projet, donc Christo et Jeanne-Claude vont créer une filiale de cette CVJ Corporation qui va s'occuper de la vente des œuvres pour financer les projets et aussi de mobiliser tous les corps de métier qui sont nécessaires pour réaliser ces projets qui sont d'une telle ampleur, qui nécessitent des centaines d'intervenants issus de tous les corps de métier. Et puis mettre tout en œuvre pendant des années pour faire exister ce projet, être dans la relation avec l'autre, ce qui est très important, convaincre, ça je crois que tous les deux étaient formidables en la matière, convaincre les riverains, convaincre aussi les politiques, ça c'est aussi tout un autre champ. Alors Jeanne-Claude, bien sûr, elle occupera davantage le rôle de femme d'affaires dans ce projet, mais du moment où l'œuvre, c'est la totalité du déroulement du projet depuis son origine, sur des années jusqu'à l'ultime moment où l'œuvre est montrée pendant un temps très court, là pour le coup, 15 jours en général, à partir de ce moment-là, le travail commun de Christo et Jeanne-Claude est essentiel et fait vraiment œuvre dès le début du projet. Leurs deux noms à coller sont vraiment comme un logo, en quelque sorte. Et finalement, réussir aussi par un modèle économique, à la fois issu du capitalisme, mais en le pervertissant en quelque sorte, réussir à faire une œuvre qui, comme ils le disaient eux-mêmes, fait quelque chose qui ne sert à rien, qui est juste là pour le plaisir, pour la beauté du geste.
And Christo and Jeanne-Claude were very good. There's an English expression: good cop, bad cop.
Christo et Jeanne-Claude étaient très bons au jeu du gentil flic et du méchant flic. Souvent, ils changeaient de rôle, mais le plus souvent, Jeanne-Claude jouait le méchant et Christo le gentil. Lui était très persuasif pendant les négociations, mais les deux l'étaient. Ils embauchaient aussi beaucoup de conseillers qui les aidaient à ouvrir des portes et à naviguer dans tel ou tel milieu. Ils avaient toute une machine et de vraies équipes derrière eux. Jeanne-Claude disait toujours « Je ne sais pas dessiner », donc elle n'allait jamais à l'atelier. Mais elle disait « Christo, lui, n'a jamais eu affaire à notre comptable ». Christo dessinait et Jeanne-Claude était avec le comptable. Mais à part ça, ils faisaient tout ensemble, même les idées originales.
Biscayne Bay in Miami was Jean-Claude's idea.
Par exemple, le projet des Surrounded Islands de Biscayne Bay à Miami. C'est une idée de Jean-Claude. Donc, ils travaillaient ensemble. Christo couchait l'idée sur le papier et ils discutaient des détails du développement du projet. Ils étaient inséparables. Le seul moment où ils n'étaient pas ensemble, c'était en avion. Ils ne le prenaient jamais ensemble. C'était comme une entreprise. Si l'avion s'écrase, au moins, l'autre peut continuer.
Hello. Okay, you have reached Mrs. Christo. What can I do for you? Wait. Can you articulate, please? I am not American. I am French. Talk slowly and articulate. Well, first you have to talk properly, Mr. McLean. It's not Christo's project, it's Christo and Jean-Claude. Number one.
Now, mais je peux vous dire une chose, que pour la première fois, quand elle a décidé de faire partie intégrale de l'œuvre de Christo, c'était quand le projet Reichstag était déjà en préparation. Et je me souviens qu'il y a, dans le film, il y a un épisode, un Américain téléphone pour demander s'il peut travailler avec Christo. Et il dit non, vous voulez travailler avec Christo et Jean-Claude. Ça veut dire que nous sommes une seule. Et c'est pour la première fois qu'elle a décidé déjà de faire une seule au niveau, disons, public. Parce qu'avant, tous les albums étaient signés seulement Christo, vous pouvez les trouver. C'était pas Christo Jean-Claude, c'était Christo.
Beaucoup de projets touchent au thème de la frontière et des clôtures. On le voit par exemple très bien dans l'œuvre Running Fence, la barrière qui court, qui est une barrière en tissu de 40 km aux États-Unis.
Of course, is the Rap Reichstag in Berlin, which is very much related to Christo's own biography.
Il y a aussi l'emballage du Reichstag à Berlin, qui est lié à la biographie de Christo, puisque le Reichstag était exactement à la frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Pour Christo, c'était le symbole du conflit, et bien sûr, c'est lié à sa vie.
I mean, of course, he was like interested in politics, but he
évidemment, il s'intéressait à la politique, mais il n'a jamais voulu transmettre directement de messages politiques. Les projets ne traitent pas de politique, mais ils sont en soi de la vraie politique. Ils alimentent les débats politiques. Le Reichstag, ce n'était pas un projet sur le Reichstag, ni sur la politique allemande. Mais il a généré des discussions politiques.
Really involved real political discussions. As you know, the German Parliament in
comme vous le savez, le Parlement allemand en 1994 a débattu en session de l'autorisation à accorder ou non à Christo de réaliser son projet.
Le Reichstag est un remarquable symbole, le témoin privilégié des grandeurs et des bassesses de notre histoire. L'emballage du Reichstag ne nous rassemblerait pas, il nous diviserait. C'est pourquoi la majorité de mon groupe se prononce contre l'emballage du Reichstag. C'est justement à cause du chômage, de la peur et du découragement, à cause de la résignation et du manque d'imagination que nous voulons donner un signal lumineux, capable de redonner espoir. C'est pourquoi je vous demande de soutenir ce projet.
Donc c'était de la vraie politique. Et c'est ce que voulaient Christo et Jean-Claude, que les gens réfléchissent à l'art et à leur projet, qu'ils entament une réflexion et confrontent leurs idées au projet.
Christo disait toujours, je fais l'art que je fais parce que je suis né en Bulgarie communiste. Si j'étais né dans le Nebraska, je n'aurais certainement pas fait ce que je fais. C'est lié à ses questions sur son enfance et à d'autres choses, j'en suis sûr. La liberté, c'est ce qui comptait le plus pour Christo et Jean-Claude. Tout cela est lié à l'histoire de son enfance.
Also, there's that story that Christo always told, that when he was studying at the academy,
Christo racontait toujours que quand il était à l'Académie des Beaux-Arts, on lui a demandé à lui et à d'autres élèves de se rendre sur la voie de chemin de fer qu'emprunte l'Orient Express à travers la Bulgarie. Ces étudiants devaient aller à la rencontre des paysans pour leur dire de bien exposer leur matériel près de la voie ferrée pour que les Occidentaux dans le train aient l'image d'un pays beau, prospère, qui excelle en agriculture. Par conséquent, quand il était étudiant, il était très à l'aise avec les gens. Et c'est lors de ces exercices qu'il a acquis des notions sur l'espace qui l'ont beaucoup aidé dans sa carrière.
Et donc de deux côtés, où il y avait 10, 15, 20 kilomètres, quelque chose visible, il fallait le décorer d'une fois caché, décorer pour cacher, et pour que ça ne soit pas comme ça des simples murs pour cacher, c'était des grands espaces dessinés. Ça veut dire avec des scènes de propagande, avec des usines ou des champs, mais même le type de dessin, c'était quelque chose de grandiose, que ça soit visible, et parce que le temps passe vite, il faut avoir la possibilité de le voir.
Donc il s'agissait de se projeter, comme si on était un voyageur du train, de se projeter à travers la fenêtre du train, et se dire qu'est-ce que je vois depuis la fenêtre, et essayer d'imaginer ces sortes d'installations finalement dans la nature. Et ce travail, il a sans doute beaucoup marqué Christo, peut-être pour, en effet, ses interventions ultérieures dans l'environnement.
Donc il fallait faire un grand, il fallait faire des grands, parce que la propagande, c'est grandiose. Il faut que l'art est au niveau de cette idéologie qui va transformer le monde. Et aussi, ces actes-là, aussi lui a donné quelque chose que tu peux, disons, travailler en grand format dans la nature, mais pas seulement ça, que tu peux, comme il a fait après, cacher pour mieux montrer, ou quand tu caches, tu fais une autre réalité, parce qu'il cachait pour créer une autre réalité. Donc ce concept-là, il a mûri dans sa tête, c'est sûr et certain. Tout cela dans sa vie, petit à petit, ce qu'il a vécu, donc tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à ses années en Bulgarie, même cette recherche continue de la liberté, d'aller au-delà de tout cela, mais la formation du peintre qu'il a eu, de peintre de la peinture, de refus de la peinture, de refuser servir l'idéologie, tout cela est né en Bulgarie.
Christo d'Est en Ouest, avec Vladimir Yavatchev, Georgi Balabanov, Sophie Duplex, Mathias Kodenberg et Nathalie Hennig. Extrait du film de Georgi Balabanov, La frontière de nos rêves, 1996. Traduction, Nicolas Champeau. Doublage, Mathieu Laurent et Romain Weber. Lecture, Anne de Pefeyou. Prise de son, Morgane Danan. Archivina, Emmanuel Lucioni. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Documentation sonore de Radio France, Éléonore Lanoé. Mixage, Manu Couturier. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Anaïs Kien. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Nathalie Salle.